Radio Les Unelles.
Radio Les Unelles.
En direct de Coutances sur le 87.7 FM.
87.7 FM.
De 11h à 16h, on parle de la lutte contre les discriminations.
On approche de la fin de cette journée aux Unelles pour la dernière table ronde qui va concerner le concours de plaidoirie qui a eu lieu il y a deux jours. Il y a du beau monde autour de la table. On va revenir un peu plus tard sur les gens qui sont avec nous. On va revenir également sur... Donc, on a les élèves, les lauréats de ce concours. Victor Lenné, bonjour.
Bonjour.
Victor Lenné, bonjour. On ne l'a pas entendu.
Bonjour. Voilà.
Bonjour. Vous allez bien?
Oui, très bien. Et vous?
Très, très bien. On a également Jeanne Lognone.
Bonjour.
Très bien dit, non?
C'était oui, comme ça. Oui, c'est... Faut le dire avec un accent italien, de toute façon.
Et Lise Grandin, qui est également avec nous.
Bonjour.
Vous allez bien tous?
Oui. Oh oui, très bien.
Alors, on va revenir pendant cette demi-heure. Vous allez nous lire une petite partie de votre plaidoirie. Vous avez été lauréats, les trois gagnants de ces plaidoiries. Vous allez pouvoir refaire le concours départemental plus tard au mois de juin. On va en revenir un petit peu après. On va commencer cette demi-heure avec également Alain Tambour, qui est avec nous autour du plateau. Bonjour.
Bonjour.
Et donc là, pas participant aux plaidoiries, mais membre de la LDH, organisateur de ces plaidoiries. On va revenir du coup sur le rôle de la LDH et comment la LDH s'est emparée de ce projet et pourquoi ils se sont emparés de ce projet. Vous allez nous expliquer ça.
Alors la LDH s'est emparée de ce projet il y a maintenant un certain temps, il y a plus d'une dizaine d'années. Mais depuis deux ans, on a réussi à s'inscrire dans le cycle des discriminations, ce qui lui a donné une autre dimension, d'autant qu'on a pu organiser ces plaidoiries au Théâtre de Coutances, hein, ce magnifique outil culturel hein, de la ville, avec l'équipe des techniciens et avec des conditions techniques exceptionnelles. Et puis, comme on est dans le cycle des discriminations, on ne s'est pas contenté des plaidoiries. On a aussi, comme vous avez pu le remarquer, organisé plusieurs choses, notamment un concert, avec nos amis de l'IME, un concert qui a décoiffé, qui a enflammé la salle à certains moments, hein, qui a été une introduction à ce moment important des plaidoiries. Et puis, on a aussi pu laisser parler d'autres acteurs, Marine Ancelin, qui a participé aux plaidoiries du mémorial. On a fait parler aussi nos amis de... J'aime Arimage, hein, qui nous ont expliqué comment on pouvait lutter contre la solitude et comment on pouvait lutter contre les préjugés, contre les handicapés. Donc, on a là, on avait un ensemble assez complet d'une journée qui pour nous était très, très importante. C'est un événement. On est content de pouvoir faire un événement à Coutances, en fait. Voilà, autour des plaidoiries, mais pas seulement les plaidoiries.
Pour un petit air de Zef, on a également des interviews. On verra si on a le temps parce que le programme est très chargé, mais on verra. On a des interviews des chanteurs qui ont participé au chant. On va continuer à vous poser des questions. Pourquoi avoir du coup choisi le format des plaidoiries et avoir soutenu ce format, surtout auprès des jeunes lycéens? C'est presque de la prévention à cet âge-là d'aller tout de suite les chercher sur des sujets assez lourds, assez durs quand même.
Alors, d'une part, ce qui nous a toujours surpris, c'est la qualité du travail en amont de ces plaidoiries et puis le résultat que produisent les lycéens depuis 10 ans. Il y a des choses importantes. Alors, c'est d'autant plus important dans cette période où on sait bien qu'il y a des idées nauséabondes qui sont promues, désinhibées. Et donc, c'est très important qu'à un moment donné, on montre que la jeunesse est consciente, s'engage et a des préoccupations sur les droits de l'homme, l'environnement, à la fois de par le monde, mais aussi près de chez nous. C'est le cas des plaidoiries de cette année.
Et pour le choix des sujets, on va revenir plus précisément sur les lauréats tout à l'heure, mais sur le choix du sujet, est-ce que la LDH avait des ambitions vis-à-vis des choix ou c'était une totale liberté auprès des enseignants et des élèves?
Alors, la liberté est totale. Les enseignants ont l'habitude de travailler avec les élèves, mais la contrainte quand même, c'est la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, l'idée, c'est que dans l'actualité, dans ce qui se passe de par le monde, les injustices, les inégalités, les discriminations, les élèves trouvent des sujets et plaident en faveur des gens qui en sont victimes en se référant à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce qu'ont réussi à faire nos trois candidats qui sont là aujourd'hui, qui ont été sélectionnés pour la finale de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Mais pas seulement eux, il y en a bien d'autres, et les plaidoiries l'ont montré hier. Il y a une forte prise de conscience de cette partie de la jeunesse, des problématiques qui se posent à nous et aux gens qui sont victimes de discrimination notamment.
Et pour nos auditeurs, pour reprendre peut-être un contexte plus général, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Ligue des droits de l'homme, c'est une association qui commence à être présente depuis quand même un certain temps sur le terrain national. Est-ce que vous pouvez rappeler les objectifs et les actions de cette association pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est une organisation qui est très ancienne. Elle est née pour répondre aux problèmes posés par l'affaire Dreyfus. On est à la base des Dreyfusards, comme on le dit. Et c'est là, en 1898, que la Ligue a été créée. Et depuis cette époque-là, à travers l'histoire, la Ligue des droits de l'homme est une organisation de combat, on va dire, mais aussi d'information et d'accompagnement de gens qui luttent pour leurs droits. L'idée, c'est de défendre les droits partout, pour toutes et pour tous. C'est de faire échec aussi à la xénophobie, aujourd'hui, qui se développe partout. Et puis, c'est promouvoir les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, ce qui est au fronton de nos mairies, hein, qui parfois est un petit peu oublié, qu'on a besoin, comme l'ont rappelé à plusieurs reprises des candidats hier, qu'on a besoin bien de soutenir et de promouvoir et de développer. Donc ça, c'est l'histoire de la LDH depuis plus de 200 ans, en fait. Hein, voilà.
Merci Alain Tambour. Quelque chose à rajouter ?
Eh bien, écoutez, non. Juste peut-être un mot pour dire que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir travailler avec les lycées, avec les équipes pédagogiques, parce que c'est vrai que c'est un travail en amont des plaidoiries qui est important. Et on le fait depuis longtemps. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour les ligueuses et les ligueurs de Coutances. Je voulais juste peut-être, très immodestement, dire que les plaidoiries qu'on va retrouver un petit peu partout en France, dans l'Hexagone, on les a inventées, en fait, dans la Manche, probablement à Granville, hein, il y a maintenant un certain temps. Et maintenant, c'est quelque chose qui s'est développé, c'est un dispositif qui s'est développé au niveau national et qui est très, très important pour la Ligue des droits de l'homme, d'autant qu'on le fait avec un agrément de l'éducation nationale. Alors, c'est une des activités pédagogiques que l'on mène, voilà.
Merci Alain Tambour, représentant de la Ligue des droits de l'homme et organisateur des plaidoiries qu'on a vues à Coutances il y a deux jours. On va maintenant partir vers les lauréats, mais juste avant, on a un petit PAD, prêt à diffuser pour ceux qui ne savent pas encore, d'un des jurys des plaidoiries. On va l'écouter tout de suite pour savoir un petit peu la grille de notation et ce qu'ils ont regardé pour vous évaluer.
Alors, le rôle du jury, c'est nécessairement de départager les concurrents, puisque c'est un concours préliminaire, si je puis dire, puisque les trois premiers vont participer à une finale départementale qui aura lieu le 1er juin à Saint-Sauveur-Village. Donc sur les critères de départage, on retient la façon de s'exprimer, est-ce qu'ils ont des notes, est-ce qu'ils n'ont pas de notes, est-ce qu'ils sont à l'aise, est-ce qu'ils arrivent à se détacher, la façon générale de s'exprimer. Ensuite, l'organisation des idées, la manière dont le sujet est soutenu, et puis les références également à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut un rattachement du propos à une atteinte aux droits de l'homme. J'ai été très agréablement surprise, mais j'en doutais pas parce que j'ai déjà présidé ce concours, de la qualité des 10 plaidoiries qui nous ont été soumises. On est face à des jeunes qui fournissent un énorme travail d'investissement. C'est une vraie qualité. Aucun d'eux n'a démérité, même s'il faut nécessairement trier. C'est quand même un très gros travail et ça fait toujours plaisir de passer une après-midi avec des jeunes qui se soucient de la liberté, des droits de l'homme. Je veux dire, c'est un vrai bonheur. Alors, les trois sujets qui remportent, je dirais, le concours de hier traitent de sujets assez différents, puisque le premier traite de la situation des femmes afghanes, qui est un souci majeur mondial, mais dont on parle relativement régulièrement néanmoins. Le second était sur les sans domicile fixe. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus intéressant puisqu'il est moins sous le feu des projecteurs. C'est quelque chose de plus quotidien. C'est des atteintes quotidiennes dans la vie de tous les jours. Et c'était quand même extrêmement intéressant d'avoir ce genre de sujet. Et puis le troisième, qui traite du racisme, ordinaire. La même chose, c'est pas nécessairement sous les feux de la rampe, mais c'est extrêmement intéressant de le voir traité par la jeunesse.
Et pour les délibérations, parce que vous étiez présidente, mais vous n'étiez pas seul juge, il y avait 6 ou 7 juges, je ne sais plus exactement. Comment ont eu lieu les délibérations? Est-ce qu'il y a eu besoin d'avoir un dernier mot ou l'ensemble des juges étaient assez d'accord pour les lauréats qui ont été décidés?
Alors, on a nécessairement été d'accord, hein, puisque c'est le but d'un jury, hein, nécessairement. Il n'y a pas eu d'énormes débats. Globalement, on s'acheminait vers ce classement et il n'y a pas eu de débat énorme pour arriver à ce résultat. Mais c'est pas pour autant, ça n'enlève rien à la qualité ni des trois qui ressortent de ce concours, ni à la qualité des autres, puisque à titre personnel, puisqu'on a vraiment débattu du classement, mais moi j'ai trouvé qu'il n'était pas facile de classer, justement, puisqu'on avait des concurrents avec une qualité relativement homogène et excellente, très bonne.
Je suis toujours avec Victor, Jeanne et Lise autour du plateau. Bonjour, on va revenir un petit peu sur vos plaidoiries. Les textes en eux-mêmes, vous allez nous faire un petit extrait de vos plaidoiries. Mais avant, j'aimerais revenir sur le choix de vos sujets. C'est des sujets qu'on ne peut pas forcément traiter en cours parce que c'est beaucoup d'actualité. Comment vous les avez choisis et est-ce que déjà ça vous a plu de pouvoir vous attaquer peut-être à des sujets qui ne vous sont pas amenés dans l'éducation qu'on connaît, mais plus vers l'actualité que vous regardez, des sujets qui vous touchent personnellement?
Oui, bonjour. Alors pour mon cas, c'est plus un avis personnel, c'est-à-dire que j'ai pendant mon enfance été baigné un petit peu dans cette culture afghane, dont mon sujet « Femme afghane, survivre en pays taliban ». Et donc, du coup, j'ai pu grandir avec des amis afghans. J'ai appris leur culture, leur façon de vivre, leur histoire, leur migration aussi. Toutes ces histoires sont importantes pour moi. Et donc, j'ai pu aussi m'identifier à eux et essayer de donner la voix de ces femmes à travers ma plaidoirie. Et donc, c'est pour ça également que j'ai choisi ce sujet.
Donc c'était une plaidoirie personnelle, c'était vraiment l'envie, voilà, de retranscrire quelque chose.
Exactement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas en classe forcément, c'est très lointain aussi. Ça demande aussi peut-être de s'intéresser à l'actualité, la géopolitique, et ça c'est vraiment important aussi dans notre société.
Jeanne, Lise peut-être ?
Oui, donc moi mon sujet il traitait des personnes sans domicile personnel. Donc déjà, il faut savoir que c'est pas que les SDF, c'est pas que les sans domicile fixe. C'est aussi les personnes qui dorment dans leur voiture, mangent dans leur voiture et retournent au travail le lendemain. C'est les personnes qui sont victimes des passeurs de sommeil. Toutes ces personnes-là qui n'ont pas accès à un logement décent, en fin de compte. Et j'ai choisi ce sujet car ma mère, elle a toujours été dans le milieu social. J'ai été baignée dans ça depuis toute petite. Et j'ai beaucoup d'empathie avec les personnes plus défavorisées et je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'elles ne sont pas assez mises en valeur. Et donc, c'était important pour moi de parler de ça, de parler des gens qui n'ont pas forcément la même chance que nous.
Et ça t'a tout de suite attiré dans ces plaidoiries de savoir que tu allais pouvoir peut-être parler d'un sujet qui, toi, te touchait et pas un sujet qu'on te donnait à travailler?
Oui, bien sûr, parce que forcément, quand on a un sujet qu'on peut choisir et qu'on peut réfléchir par nous-mêmes, et qui nous tient à cœur de base, eh bien, c'est beaucoup plus facile de travailler, c'est beaucoup plus facile d'avoir des expériences personnelles, c'est beaucoup plus facile de demander à des proches ou de se rappeler des choses qu'on a déjà vues pour faire le travail. Et ça nous tient à cœur. Quand on l'a fait, on est content, on s'est dit « j'ai un peu contribué à la cause que je soutiens ».
Et Lise, toi, comment t'as choisi ton sujet ?
Nous, c'était un projet qu'on a commencé en commun avec plusieurs élèves. Donc nous, on était à 3 au début sur le sujet. Et en fait, le racisme, notamment le racisme ordinaire, c'est quelque chose qu'on trouvait que c'était pas assez. On n'en parlait pas assez parce que c'est vraiment des attaques au quotidien. Et on oublie souvent que c'est toujours quelque chose d'actualité au final. Et après, je me suis investie plus sur le sujet qu'eux, du coup, et ça m'a plu de défendre cette cause.
Et donc, j'imagine qu'il y a quand même eu un sacré travail de recherche également, parce qu'il fallait se relier à la Déclaration des droits de l'homme. Il y a également eu des articles de droit, si je me souviens, qui étaient cités, des personnalités, des personnes pour ramener, pour parler de citations, pour ramener la personne à quelque chose de plus naturel, de plus humain. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez uniquement... Quelles étaient vos sources? Comment avez-vous essayé de travailler le sujet?
Alors, pour mon cas, j'ai essayé de m'immerger aussi dans ces vies de ces Afghanes. J'ai regardé beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages, pour essayer de trouver les témoignages les plus percutants, pour transmettre ce message de la manière la plus émotionnelle. Il y a aussi une grosse partie d'écriture, de recherche notamment. Donc cette partie-là prend énormément de temps. Elle est plaisante aussi, hein. C'est pas aussi qu'une démonstration oratoire, c'est vraiment apprendre une façon d'écrire. Donc un plaidoyer, c'est quelque chose de particulier qu'on ne fait pas du tout à l'école, hein. Ça, c'est vrai.
C'est une écriture, hein. C'est un travail à part entière de
plaidoyer. Exactement, et c'est beaucoup de boulot, mais à la fin... Eh bien, on est fier de soi, hein, quand même, et ça montre aussi qu'on peut faire beaucoup de choses.
Oui, comme disait Victor, le travail de recherche est quand même important, parce que même si notre sujet, on l'a choisi et on le connaît, eh bien, on n'a pas toutes les infos ou des infos incomplètes. Donc, il y a un gros travail de recherche sur Internet, et on passe des fois des heures à chercher les témoignages les plus marquants, les infos les plus pertinentes, qui peuvent le plus toucher le spectateur. Et voilà.
Parfait, Lise, quelque chose à rajouter?
Non, c'est presque pareil, exactement. Beaucoup d'articles, tout ça.
Et pour revenir à la démonstration sur scène, pas de stress, parce que bon, est-ce que c'était la première fois que vous réalisiez ce type d'exercice? Parce que bon, il ne faut pas bégayer, il faut parler fort, il faut se faire comprendre, il faut avoir le bon ton. Vous avez récité, vous étiez un peu stressé. Comment ça s'est passé avant de passer sur scène?
Bon, dire qu'on n'a pas de stress, ce serait mentir. Il y a toujours du stress, mais à la fois, ce stress, il nous permet aussi de donner une émotion, de l'énergie. Dans mon cas, j'étais assez stressé, hein, quand même, je pense, comme vous trois, enfin, vous deux. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Je suis passé dans 9e, donc dans les derniers. Et comment dire? Quand je suis monté sur scène, j'avais pas de feuilles, j'avais pas mes fiches, voilà, ça a été tout feu tout flamme, mais voilà, je me suis lancé, j'ai réussi et ça m'a porté chance.
Ça a payé.
Ça a payé, oui, exactement.
Et vous aussi un petit peu stress ou ça a été?
En fait, quand on rentre dans la salle, on voit les gens qui s'accumulent sur les sièges, on se dit ah mince, je vais passer devant tout ce monde-là, je vais devoir réciter ma plaidoirie devant tout ce monde-là. Et en fin de compte, on te place, on donne ton numéro. Et petit à petit, le stress, il descend parce que tu dis « Allez, c'est à moi dans 2 plaidoiries, dans 3 plaidoiries, c'est à moi. » Et puis, une fois que tu as monté les marches, c'est bon. Tu te dis « Maintenant, c'est à moi, c'est mon tour. » Et soit je les éblouis, soit je leur fais comprendre ce que j'ai à dire, soit je me rate. Donc la seule option, c'est de ne pas se rater et d'éblouir les spectateurs, le public.
Bon, Lise a l'air assez d'accord avec ce que vous venez de dire.
Exactement.
Vous avez donc pas stressé pendant la plaidoirie, donc normalement, je pense que maintenant, ça devrait aller. Si vous devez nous faire un petit extrait de votre plaidoirie à la radio, on va commencer avec toi, Victor, si ça ne te dérange pas.
Pas de souci, ouais.
Avec les femmes afghanes survivre en pays taliban.
Alors, je vais pas choisir le début, je vais essayer d'aller au concret.
Donc, c'est toi qui décides l'extrait.
La population est appauvrie et des millions d'enfants souffrent de malnutrition. 95% de la population afghane ne mange pas à sa faim. C'est l'exemple de Jamail. Elle a 21 ans et 6 enfants. Elle n'a pas d'eau, pas de pain, pas de nourriture. Elle n'a même pas de lait au sein pour nourrir son enfant. Sous la pression de la pauvreté et de son mari, Jamail a consenti à l'inconcevable. Oui, elle a vendu 3 de ses filles, Jamila, Karima et Spodjail, cette dernière qui n'a que 2 ans seulement. Ses filles seront vendues 30 000 afghanis, soit 300 euros. C'est le prix d'une vie de femme en Afghanistan. Quelques kilomètres plus loin, C'est une autre vie encore qui est brisée. Lorshana, 19 ans. Son crime, avoir fui son village avec un homme pour échapper à un mariage forcé. Arrêtée, elle sera lapidée. Lapidée, oui. Elle sera exécutée par acte de torture. Et pourtant, rappelez-vous l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Déchus de tous leurs droits, les femmes afghanes vivent, non que dis-je plutôt survivent, dans la peur, la colère et avec un sentiment profond de désarroi. Et pourtant, elles font preuve toujours et encore de courage et résistance, en continuant à les affronter malgré les représailles. L'une d'entre elles témoigne. Un jour, lors d'une manifestation, un talib m'a donné des coups de pied si violents que je suis tombé par terre. Ma vision est devenue noire et j'ai cru que j'allais perdre mes forces. Je me suis relevé et j'ai crié encore plus fort. Pain, travail, liberté. J'espère que je ne serai jamais silencieuse face à l'oppression. C'est devenu ma responsabilité humaine et mon devoir. De cette captivité, j'aspire à un avenir meilleur pour mon pays et je continuerai à me battre pour lui. Voilà.
Merci. Merci pour ta plaidoirie. Je rappelle, femme afghane, survivre en pays taliban. On continue avec Jeanne, avec une tirade pour nos va-nu-pieds.
Oui, donc moi je vais prendre un milieu de ma plaidoirie aussi, parce que le début est pertinent et la fin aussi, mais le milieu est pas mal. Depuis 10 ans, le nombre de SDF a doublé selon la Fondation l'Abbé Pierre, qui pourtant lutte depuis 1992 pour améliorer les conditions de vie déplorables de ces personnes et leur offrir le plus de moyens possible. Ces personnes, bien qu'elles n'aient pas de logement, restent humaines et ont une histoire et un vécu bien propre. Certaines sont des femmes battues, mises à la rue par leur mari, d'autres des personnes précaires qui se sont retrouvées incapables de payer leur loyer et ont été obligées d'aller vivre dehors, ou encore des enfants nés directement à la rue. Chaque profil est unique et mérite un minimum de confort, surtout en ces périodes froides, après le rude hiver qu'ils ont dû traverser. Issa, jeune SDF interrogée par France Info, témoigne. Si je trouve une place qui est tranquille, je mets mon carton et mon drap dans un coin. C'est là qu'on se cache la nuit. On ne dort même pas à cause du froid et de l'insécurité. Si tu dors, les gens te volent tes affaires. Trouvez-vous ceci acceptable que malgré les dispositions mises en place, des centaines de personnes comme Issa vivent dans de telles conditions, dans l'inconfort, la peur, la discrimination et la méfiance, tous les jours, pendant des années.
Merci. On continue avec la dernière plaidoirie, Lise, avec une vie au faciès.
Moi, j'ai choisi de lire la fin de ma plaidoirie, donc pour que ce soit un peu plus percutant, je trouvais. Le racisme est donc toujours un sujet d'actualité sur lequel il faut continuer de lutter. Car en effet, ces discriminations à répétition sont intolérables. Encore plus en connaissance des situations extrêmes qui existent et qui mènent à la mort d'individus, ne garantissant donc pas leur sécurité dans le pays, ce qui ne correspond pas à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disant que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Inadmissible qu'à notre époque, des gens continuent de mourir pour leur couleur de peau, ou bien simplement se voient refuser l'accès à l'emploi pour la même raison. Il faut mettre fin au harcèlement quotidien dont sont victimes les personnes racisées et ainsi être à la hauteur de la devise d'égalité abordée sur le fronton de nos mairies.
Voilà. Merci beaucoup pour vos trois plaidoiries. Ça vous a remis un peu dans le bain. Je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs. C'est le même texte que vous allez lire pour la finale départementale ou vous allez devoir en retravailler un autre ?
Bien évidemment, il va falloir retravailler, hein, bien sûr. Après, la base du texte est la même, hein, mais on retravaille.
Mais vous gardez quand même le thème que vous avez choisi pour cette
plaidoirie. Bien sûr, oui.
Vous avez travaillé quoi, la diction ?
La diction, la gestuelle aussi, très importante. C'est pas naturel, cet exercice. Ça peut être contradictoire, mais parler devant un auditoire, c'est à la fois être naturel, mais ça se travaille. Et justement, ça peut être un peu contradictoire, mais c'est pas naturel, cet exercice à réaliser.
Il faut coordonner nos gestes avec nos émotions et faire un peu de théâtre, mais pas trop, pour ne pas être dans l'abus. Dans l'abus, oui, voilà.
Merci Victor, Jeanne et Lise pour vos plaidoiries. On va parler un tout petit instant encore des plaidoiries, parce qu'on a oublié quelqu'un, un petit air de Zef, qui était là pour le concert avant. On va écouter du coup deux des chanteurs du groupe qui ont répondu à mon micro, et ensuite on écoutera Anthony, un des éducateurs musiciens qui les accompagne.
On a répété pour le spectacle de tantôt.
Et c'est des chansons que vous avez apprises régulièrement ou c'est des chansons que vous venez d'apprendre, vous les avez choisies?
C'est déjà des chansons qu'on a apprises.
Depuis longtemps.
Depuis longtemps, depuis 2000, ça va faire deux ans.
Voilà, c'est ça.
Donc vous commencez à les connaître? Tu les connais les chansons?
Oui, je les connais. Hein.
Par cœur?
Par cœur.
Ça s'est vu tout à l'heure. Ouais. Donc là, il est tout juste midi. Vous allez jouer dans une heure et demie. Vous avez hâte d'être sur scène et de pouvoir chanter vos chansons?
Oui, on a hâte de chanter.
Oui, on est à fond.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la... C'est le fait d'être sur scène, de chanter. Est-ce que ça te libère? Ça t'aimes bien chanter?
Oui, j'aime bien. C'est ma passion.
Est-ce que vous avez une chanson préférée dans toutes les chansons que vous avez fait ce matin?
Alors on danse.
Alors on danse de Stromae?
Oui.
Pourquoi? Parce qu'on fait la fête dessus?
Bah oui.
Et toi, t'as une chanson préférée?
Oui, Jacques Dutronc.
C'est quoi la chanson de Jacques
Dutronc? Les cactus.
Les cactus? Tu l'aimes bien?
Oui.
Pourquoi aussi on danse, c'est festif?
J'aime bien les anciennes chansons.
Ouais, donc ce matin, c'était une répétition au théâtre municipal de Coutances. Donc ça, c'est, enfin, pour nous, c'est quelque chose d'unique. C'est une grande salle du département. Voilà. Nous, on a fait d'autres salles. On a eu la chance de répéter au Normandie il y a deux ans. On a fait d'autres concerts, plutôt festivals, on va dire, ou marchés d'été. Le collectif Un Petit Air de Zef, ça, c'est un groupe à géométrie variable. Il y a différents éducateurs et différents chanteurs qui varient d'une année sur l'autre. Ils reprennent des chansons qu'ils choisissent et le but, c'est de faire la fête. C'est un groupe pour s'amuser, pour rigoler et pour danser. C'est hyper important et nous, on y met nos valeurs d'inclusion dedans. C'est pour ça qu'avec le label Tour de Chauffe et Chauffer dans la Noirceur, on travaille ensemble parce qu'ils nous soutiennent à fond dans notre projet, notre établissement, notre association. Et le but, c'est que ce soit un moment festif, qu'on puisse partager, nous, ce qu'on le kiffe, qu'on prend sur scène et surtout le faire partager au public qui vient nous voir.
Je tiens également à remercier GEMR Images, donc on a écouté les textes juste avant, qui ont exposé leur panneau au Théâtre de Coutances juste avant les plaidoiries. On va se quitter, c'était la dernière table ronde de la journée, mais avant, un dernier petit mot pour nos lauréats, et même Alain Tambour, hein, si jamais.
Alors moi, j'aimerais remercier déjà le Théâtre de Coutances d'avoir organisé cet événement, et aussi j'aimerais féliciter tous les autres plaideurs et plaideuses, et surtout ceux de ma classe, du coup. J'aimerais dire bravo à Tom, Alban et Gabi et Lilou, qui ont fourni un travail considérable et qui ont géré. Et c'est dommage qu'ils ne soient pas sur le podium.
Sur la même voie, je voudrais remercier mon camarade Joshua, qui a fait une plaidoirie mémorable avec moi. Et on s'est beaucoup entraidés, notamment pour la gestion du stress lors de l'épreuve. Et merci à lui et bravo aussi.
Et merci à tous ceux qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette expérience. Et puis, moi, j'aimerais aussi remercier mes deux camarades qui m'ont aussi pas mal aidé à écrire, enfin, à m'encourager pour le faire, à me lancer.
Et puis, je voulais rajouter une dernière fois, merci à la Ligue des droits de l'homme aussi d'organiser ce genre d'événement parce que ça met en lumière des droits qui sont fondamentaux. Et dans une société, c'est important aussi de construire avec ces droits, avec des élèves engagés et qui sait des citoyens très engagés.
Alors moi, je n'ose plus conclure là parce que la conclusion a été faite, mais je voudrais saluer les trois participants, mais aussi les 13 autres, hein, enfin les 10 autres hein, qui sont pas là aujourd'hui. Et ça vient d'être rappelé qui ont pas démérité. Les témoignages qu'on vient d'entendre là, ça justifie entièrement l'action que nous menons. C'est la meilleure illustration. De ce qu'on fait, de ce qu'on souhaite faire. Et moi, je remercie infiniment les équipes pédagogiques et les établissements et bien entendu les plaideuses, comme tu as dit, et les plaideurs bien de cette année, de cette session.
Bonjour à ma maman si elle écoute.
C'est très important. Effectivement. Merci aussi à Zone d'Onde hein, de nous permettre d'avoir un témoignage important. On va l'utiliser parce que ce qui vient d'être dit là tout à l'heure, c'est très percutant, on va le dire. Et je pense qu'on va le diffuser aussi très très largement, ce que viennent de dire ces trois jeunes personnes.